Bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, merci de venir aujourd'hui pour ce cours qui va traiter de l'altération des couleurs et des modifications d'apparence des tableaux et également des reconstitutions qu'on peut tenter d'imaginer ou tenter de faire pour essayer de remédier à ces changements profonds qui peuvent parfois exister sur certaines œuvres. Donc, c'est un cours qui va revenir sur certaines des méthodes d'analyse qu'on a déjà vues, notamment les deux fois précédentes, compléter un petit peu ces méthodes d'analyse. Mais pour commencer, comme d'habitude, je vous mets toujours un petit document. Donc aujourd'hui, je voudrais commencer par cette lettre de Vincent Van Gogh, donc à son frère Théo, le 11 avril 1888, et qui commence un peu à illustrer ce cours. Et donc il dit à son frère, « Tu as eu raison de dire à Tassé, donc Tassé c'est son marchand de couleurs, qu'il fallait ajouter la laque géranium tout de même. Il l'a envoyé, je viens de vérifier. Toutes les couleurs que l'impressionnisme a mises à la mode sont changeantes. Raison de plus de les employer hardiment trop crues. Le temps les adoucira que trop. » Vous voyez tout de suite ce problème, déjà connu par le peintre lui-même de son vivant, de ces modifications de couleurs qui peuvent se produire une fois la toile réalisée. Et il continue ainsi toute la commande que j'ai faite, soit les trois chromes, donc c'est un pigment orangé, l'orangé, le jaune, le citron, le bleu de Prusse, l'émeraude, les lacs de Garance, le vert véronèse, la mine orange, tout cela ne se trouve guère sur la palette hollandaise, Maris, Mauve et Israels. Donc mon invité au séminaire aujourd'hui est également hollandais, donc c'est peut-être aussi un petit clin d'œil que je lui fais par rapport à ces trois artistes qui étaient donc des peintres de cette école de La Haye qui a été très active dans les années 1870 à 1890, auprès de ces peintres d'ailleurs que Van Gogh a appris et découvert les activités, les manières de réaliser des tableaux de certains peintres réalistes et impressionnistes français. Mais ces peintres avaient une palette très limitée avec des tons gris, ce qui bien sûr n'a pas été le cas de Van Gogh qui a choisi des couleurs très lumineuses et des couleurs qui sont parfois passés avec le temps. Donc pour continuer juste cette introduction, je vais aussi reciter un autre texte, cette fois-ci français, de Claude Monet, qui expliquait, avec toujours ces mêmes réflexions sur les couleurs, « On ne fait pas des tableaux avec des doctrines. Depuis l'apparition de l'impressionnisme, les salons officiels qui étaient bruns sont devenus bleus, verts et roses. Bonbons anglais ou chocolat, c'est toujours de la confiserie. » Donc il plaisantait dans un quotidien qui était l'Excelsior en 1920. Donc voilà un petit peu cette introduction pour vous montrer que la palette des couleurs utilisée par les artistes explose à partir des années 1860-1870 et que les peintres ont cherché à utiliser ces productions permises par l'industrie chimique, par la synthèse de nouveaux matériaux, par des marchands de couleurs toujours plus inventifs pour fabriquer des nouveaux matériaux, des nouveaux pigments pour les artistes. Mais on va regarder en fait les problèmes sous-jacents à cet usage. Donc je vais faire une rapide introduction pour m'intéresser ensuite à la transformation des pigments inorganiques, donc composés de sels métalliques. Regardez ensuite l'affadissement, la décoloration des colorants, cette fois-ci qui sont organiques, et puis s'intéresser à la manière de réinventer les couleurs telles qu'elles peuvent être faites aujourd'hui grâce à des traitements informatiques, grâce à des procédés de réalité virtuelle notamment. Donc en introduction, les modifications des couleurs, on peut considérer qu'elles ont plusieurs origines. Je n'aurai pas le temps de les détailler à présent. Je vais m'intéresser vraiment aux problèmes d'altération dus à des effets naturels. La première origine est quand même volontaire. C'est que pour des raisons de changement de goût, de politique, d'idéologie, certaines couleurs vont être remplacées, certains tableaux vont être retraités, certaines cathédrales vont être blanchies, les pigments de certaines sculptures grecques vont être arrachés. Donc on a toute une série d'éléments au cours de l'histoire qui ont fait que les couleurs ont pu changer par des actions, cette fois-ci, humaines. Mais c'est surtout donc, ce qui m'intéresse, l'action d'agents atmosphériques, donc notamment l'humidité et l'oxygène de l'air, qui vont produire des changements de couleur, et puis également parfois l'action entre différents ingrédients présents au sein du film peint. C'est-à-dire qu'il peut se produire des réactions chimiques entre un liant et puis un pigment, par exemple, qui va faire que certaines couleurs vertes de la Renaissance sont devenues marron, parce que l'huile du liant a interagi avec des sels de cuivre et donc a changé la couleur d'origine qui était verte pour en donner un produit marron. Donc la question, c'est comment étudier ces altérations. Donc bien entendu, de nouveau, à l'aide d'analyses chimiques, soit directement sur les œuvres, soit à l'aide de prélèvements. Comment se représenter ce qu'était l'œuvre à l'origine? On va regarder un petit peu aujourd'hui des simulations qui peuvent être faites, mais également comment l'étude de textes produits par les artistes eux-mêmes ou par les critiques d'art peuvent nous renseigner sur cet état originel des tableaux. Et puis aussi, je voudrais m'intéresser de temps en temps à quel a été le point de vue des artistes sur la stabilité de ces couleurs. Donc, j'en ai parlé un petit peu sur Van Gogh à l'instant. On va le revoir également dans d'autres cas, et avec des exemples traitant du 19e siècle essentiellement, et un exemple datant du 20e siècle. Donc la transformation des pigments inorganiques, c'est quelque chose qui est très important dans l'altération des couleurs que l'on peut voir sur les tableaux. Donc on parlait de bonbons anglais. Je vais commencer par ce tableau de James Ensor, donc une nature morte, dite nature morte au chou, donc d'un musée hollandais, le musée Kröller Müller, qui a effectué de nombreux partenariats avec des scientifiques, notamment de l'université de Anvers, ces dernières années, et donc qui va être souvent un musée duquel je vous montrerai certaines peintures qui ont fait l'objet d'études de ces phénomènes d'altération. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans le cas de ce tableau, le laser ? C'est qu'il a des couleurs donc très très vives, en effet, mais qu'au moment où il a été décadré, donc où son cadre a été retiré, les restaurateurs se sont rendus compte que sur les bordures, donc vous voyez ici le coin inférieur droit du tableau, sur les bordures, dans cette zone ici, on avait une couleur jaune qui était bien nette, alors que vous devez deviner, là où je suis, ça ne se voit pas très bien, qu'on a une zone un peu plus altérée dans cette partie non couverte par le tableau, avec notamment l'apparition de petites zones blanchâtres qui sont là, et sur lesquelles on peut zoomer davantage, on peut avoir un détail de cette partie, pour voir l'apparition d'efflorescences blanches à la surface de ce pigment jaune. Donc c'est quelque chose qui est intéressant, c'est un tableau qui n'a pas été verni, donc ce n'est pas un phénomène dû au vernis, c'est un phénomène dû à l'interaction justement entre les agents atmosphériques et le pigment qui est présent ici. Et le cadre lui-même, qui était présent sur les bords du tableau, a empêché cette formation de ces efflorescences parce qu'il a empêché la lumière, modifié les conditions climatiques, également notamment l'humidité, qui sont à l'origine de ces transformations de couleurs. Donc le pigment en question ici est un pigment qu'on appelle le jaune de cadmium, et donc qui a été utilisé pour réaliser ces couleurs. Alors ce jaune de cadmium est un pigment qui a été disponible à partir des années 1840, qui a été synthétisé en fait par des chimistes, toujours suite à la découverte du métal, le cadmium lui-même, qui a été découvert en 1817 en Allemagne. Et de là, toute une série de réactions ont été testées sur ce métal, et certaines réactions, avec des composés riches en soufre, ont permis de fabriquer un magnifique pigment jaune. Alors un pigment jaune, ce sulfure de cadmium, qu'on peut retrouver très très rarement à l'état naturel, c'est un minéral qu'on appelle la greenlockite, là vous voyez des très jolis cristaux qui ont été découverts en Namibie, mais en fait qu'on va synthétiser sous forme de poudre, et vous voyez là une image vue au microscope de ces grains, de ce pigment jaune, de sulfure de cadmium, greenlockite. En fait, ce sulfure de cadmium, pour une même composition chimique, existe sous deux formes cristallines différentes, mais c'est celle-là qui est la plus fréquemment observée dans le cas de la peinture. Alors qu'est-ce qui est intéressant dans ce cas-là? C'est que c'est un très beau jaune, très brillant, connu pour avoir un pouvoir couvrant exceptionnel, donc occultant les couches sous-jacentes très très facilement, et également très facile à fabriquer et pas très coûteux. Donc il avait beaucoup d'avantages pour l'industrie de la peinture. Et il était également considéré comme très stable dans la peinture à l'huile, à l'aquarelle, et tous les manuels parlaient d'une grande stabilité de ce pigment. Je viens de vous montrer que ce n'est pas totalement le cas, puisqu'on peut voir aujourd'hui ces efflorescences blanches apparaître à la surface de certains de ces tableaux. Et donc, comment et pourquoi le sulfure de cadmium se transforme-t-il? C'est la question qui a cherché à être résolue par ces recherches menées par rayonnement synchrotron, dont j'en ai beaucoup parlé la semaine dernière, et visant à essayer de caractériser ces pigments. Donc, je vous ai parlé de différentes approches par le rayonnement synchrotron la semaine dernière. Il y en a une que j'ai évoquée très rapidement, qui est la technique des spectroscopies d'absorption des rayons X. Et je vous ai montré un graphique qui était celui-là, et où on voyait apparaître en fait l'évolution de l'absorption par un élément chimique particulier, ici le cuivre, en fonction de l'énergie des rayons X. Et cette absorption est faible quand on est avant une certaine valeur, puis elle devient très grande, et puis ensuite elle va redécroître quand l'énergie des rayons X va augmenter. Donc cette partie, ce saut, qui est une sorte de discontinuité dans cette absorption, c'est ce qu'on appelle un seuil d'absorption, et on va pouvoir en tirer des informations très importantes et très intéressantes pour caractériser la nature et l'environnement d'un atome à l'intérieur d'un matériau. Donc c'est une méthode qui va être complémentaire d'autres approches, notamment comme la diffraction de rayons X, pour nous permettre de déterminer précisément comment cet atome est situé dans la matière, quel est son degré d'oxydation, combien il y a d'atomes voisins et à quelle distance, quelle est la nature de ces atomes voisins et à quelle distance. Donc ces techniques de spectroscopie d'absorption, on appelle ça notamment la méthode XANES, donc X-ray Absorption Near Edge Structure, donc c'est juste la partie très proche de ce seuil, là ici en rouge, et puis l'EXAFS, qui est la manière étendue d'étudier ce seuil, et qui vont toutes les deux donner ce type d'information sur l'environnement d'un atome dans la matière. Donc pour cela, le rayonnement synchrotron est la seule méthode qui permet de manière efficace de faire ce type de mesure, parce que c'est une méthode qui permet de fabriquer des rayons X de l'énergie que l'on souhaite, et comme ça de sonder l'atome que l'on souhaite en faisant varier l'énergie le long du seuil d'absorption qui va nous intéresser. Donc je donne un exemple pour être un petit peu plus concret, qui est celui du soufre, puisqu'on va s'intéresser au sulfure de cadmium, et des mesures peuvent être faites sur le soufre, sur différents types de matériaux, comme vous voyez ici, donc de différents composés de soufre, des sulfates par exemple ici, et puis des sulfures à cet endroit-là, puis du soufre lui-même à cet endroit-là. Donc vous voyez, le seuil d'absorption va être visible par exemple ici par ce pic et cette oscillation qui va suivre, et vous voyez ici la position du seuil d'absorption ici est à une certaine valeur en électronvolts que l'on peut lire ici sur l'énergie des rayons X qui correspondent à cette mesure précise. Et vous remarquez que quand on va aller d'un degré d'oxydation à un autre, la position de ce seuil va bouger, et en fait elle aura d'autant moins d'énergie qu'on est moins positif dans le nombre d'oxydation de l'élément soufre. Donc en fait c'est quelque chose qui est intéressant puisqu'on va pouvoir dire qu'on va pouvoir oxyder du soufre et suivre son comportement juste en regardant la position de ce pic et dire « Ah, là, on est en présence d'un soufre réduit, c'est le cas par exemple du sulfure de cadmium, et puis là, on est en présence d'un soufre oxydé, c'est le cas par exemple d'un sulfate. » Et en mesurant toute une série de matériaux de référence, on fabrique des sortes d'empreintes digitales de chaque comportement, de chaque type de soufre dans la matière, et de là, on peut dire les choses directement et très facilement. Donc c'est ce qu'ont fait les collègues belges de l'université de Anvers et quelques autres associés à cette étude en prélevant sur ce tableau de Ensor un tout petit échantillon que vous voyez ici. Vous voyez une matière blanchâtre, légèrement brunâtre. Vous voyez le très beau pigment jaune de cadmium qui est encore bien conservé ici. Donc le petit rectangle correspond à la zone qui a été analysée. Et vous avez ici différents points de mesure qui vont correspondre à ces différents seuils d'absorption du soufre à l'intérieur de ces matériaux. Alors quand on va être en présence de la très belle couleur jaune, on va avoir des pics qui vont apparaître et qui correspondent à la présence du sulfure de cadmium. Et ils se rendent compte que quand on est en présence de la couleur plus blanche, à ce moment-là, il y a des pics qui correspondent à un sulfate de cadmium. Et donc, par le biais de ce type d'étude, qui est extrêmement résolu spatialement, c'est-à-dire qu'on a une sonde qui ne fait même pas un micromètre de diamètre, on est capable de voir comment coexistent l'un à côté de l'autre ces sulfures, qui étaient le pigment d'origine, et ces sulfates, qui est le produit d'altération qui donne cette couleur blanche. Donc on arrive comme ça très facilement à le faire, et ils ont pu regarder ça d'un petit peu plus près en regardant cette fois-ci un échantillon de peinture un peu plus gros qu'ils ont pu inclure comme d'habitude dans de la résine pour en faire une section. Donc vous voyez l'épaisseur de la couche déposée par James Ensor de ce pigment jaune. Vous voyez à la surface qui se produit des petites choses qu'on voit mal. C'est vraiment une altération de surface qui s'est produite. Et là vous avez l'image des sulfures, et ici vous avez l'image des sulfates. Et vous remarquez bien, donc dans cette petite zone blanche, le rectangle ici, que les sulfates sont présents juste à la surface. Donc ça a été l'occasion d'expliquer chimiquement un petit peu plus ce qui se passe dans de tels cas, d'expliquer davantage comment le sulfure de cadmium peut se décomposer. Donc il va se décomposer par un effet photochimique, donc en présence de lumière. Donc vous avez un photon lumineux qui va agir sur le sulfure de cadmium, qui est un composé semi-conducteur, et de là former ce qu'on appelle des paires électrons-trous qui vont permettre d'agir sur l'organisation du sulfure de cadmium dans le cristal pour finalement, d'une certaine manière, séparer l'ion cadmium du soufre. Et de là, ensuite, en présence d'oxygène qui vient de l'air, ça se produit à la surface de la peinture, vous allez avoir ces composés qui vont réagir pour former du cadmium et puis un sulfate qui vont pouvoir migrer et se déposer, précipiter, juste à la surface de la peinture. Donc on a là même la possibilité, grâce à ce type de mesure, d'observation de la localisation de ces produits d'altération, d'expliquer dans le détail les différents paramètres qui sont importants pour cette altération et puis les différentes étapes des réactions chimiques qui se sont produites pour arriver à ce type de résultat. Ce qui est intéressant dans ces paramètres, c'est qu'il faut un photon, donc la représenter par son énergie, H nu, et puis il faut également, à la fin, fabriquer ce sulfate, qui est en fait un sulfate hydraté, et il faut donc aussi de l'eau. Donc il faut de la lumière, il faut de l'eau. Donc de la lumière, le tableau est exposé, c'est évident qu'il y en a, et de l'eau, ben, il en faut aussi. Et une des théories a été de considérer que les conditions climatiques à l'intérieur du musée n'étaient peut-être pas suffisamment bien stabilisées, et notamment le degré d'hygrométrie était peut-être un peu trop fluctuant, ce qui a pu conduire à ce type d'altération, et qui peut faire penser qu'il pourrait être bon dans l'avenir de maîtriser peut-être un peu plus l'humidité, voire d'imaginer, pour conserver de tels tableaux, des vitrines qui protégeraient de l'humidité l'œuvre. On ne peut pas les protéger de la lumière sans arrêter de les faire voir. Donc ça serait un peu idiot. Mais en tout cas, l'humidité est aussi un paramètre primordial dans ce cas-là. C'est un des phénomènes de décomposition des sulfures de cadmium qui existent. Je vais vous montrer un deuxième cas, et en fait il y en a sans doute encore d'autres qui peuvent exister, qui est un tableau de Vincent van Gogh, toujours du même musée Kröller-Müller aux Pays-Bas, et sur lequel a été observé par des restaurateurs des phénomènes d'altération assez intéressants qui se sont produits finalement relativement récemment. Donc vous voyez ici un détail d'une zone jaune qui est par ici, et vous voyez apparaître, alors qu'une partie du vernis qui était présent à la surface du tableau de la peinture est tombée, a été arrachée, vous voyez la très belle couleur jaune sous-jacente, alors que l'ensemble de la couleur maintenant apparaît un peu gris, marronâtre, comme un encroûtement présent à la surface. Donc on n'est pas en présence du même phénomène d'altération, ce n'est plus un dépôt d'une matière blanche qui est présente à la surface, c'est autre chose. Et donc les restaurateurs qui ont travaillé sur ce tableau en 2009 s'y sont particulièrement intéressés pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce tableau avait été verni au début du XXe siècle. Van Gogh, en général, ne vernissait pas ses tableaux. Il considérait que ce n'était pas utile, mais ce tableau a été verni postérieurement, comme la plupart d'ailleurs des tableaux de Van Gogh l'ont été. Et donc ils se sont dit, pourquoi il y a ce vernis qui devient un peu marron, il faut qu'on le retire. Donc essayons d'étudier plus en détail ce phénomène. Et donc ils ont observé donc, une couche légèrement blanc-cassée, donc c'est la restauratrice qui disait ça. Les pigments de ce tableau sont recouverts d'une croûte sombre, craquelée, que l'on ne peut pas éliminer sans endommager le pigment de cadmium d'origine. Donc elle s'est rendue compte d'une grosse difficulté technique finalement au moment même de la restauration. Donc un prélèvement a été fait dans une zone comme ça. Vous voyez sa section vue au microscope avec la couleur jaune, la couleur brunâtre qui crée l'apparence d'encroûtement gris-brunâtre de la peinture et puis le vernis présent encore en surface au-dessus. Donc ces études ont utilisé le même type de technique, notamment la méthode de spectroscopie d'absorption XANES, mais aussi la fluorescence des rayons X, la diffraction des rayons X, qu'on avait vu plus en détail durant les précédents cours. Vous voyez, si on s'intéresse juste à cette partie du vernis et puis du pigment sain, vous avez ces différentes images qui vous montrent différents éléments. Le cadmium présent dans la couleur est également présent dans le vernis. Donc ça, ce n'est pas du tout volontaire. Ils n'ont pas fait un vernis qui contient un pigment jaune. C'est que le cadmium a pu diffuser à l'intérieur du vernis. Vous voyez qu'il y a du plomb également qui est présent dans ce vernis. Alors on sait que le plomb peut rentrer dans certaines recettes de préparation des vernis. Vous avez aussi un petit peu de zinc, mais la méthode est très sensible. Et par diffraction des rayons X, on voit le sulfure de cadmium qui est présent dans la couche jaune. Dans le vernis, maintenant, le plomb, on peut l'identifier, c'est un sulfate de plomb. Le cadmium, on peut l'identifier, c'est ce qu'on appelle un oxalate de cadmium. Et puis, vous voyez apparaître également ici un autre composé de cadmium important, qui est un carbonate de cadmium. Donc, l'oxalate de cadmium, le carbonate de cadmium, le sulfate de plomb n'étaient pas présents à l'origine dans la peinture. Donc ils se sont produits par un phénomène d'altération là aussi très complexe qui a pu être étudié, décortiqué, simulé en laboratoire et qui a permis d'expliquer un petit peu que le sulfure de cadmium avait commencé sans doute à s'altérer pour former les sulfates de cadmium que je viens de vous expliquer il y a quelques instants au début de cette étude. Puis le vernis a été déposé. Et ce vernis ayant été déposé, il a pu interagir avec ces sulfates de cadmium pour finalement les dissoudre et produire une diffusion des éléments chimiques présents. Sulfate et métal, qui eux-mêmes ont réagi avec les ingrédients du vernis pour former cet encroûtement, cette fois-ci, qui est marron. Et donc, vous voyez, encore une réaction extrêmement complexe qui est en plusieurs étapes, mais qui a créé une transformation profonde des couleurs de cette peinture. Et donc, il va faire que maintenant, il faut essayer de dévernir, de retirer ces encroûtements et de révéler comment ces couleurs sous-jacentes étaient présentes à l'aide d'un travail de restauration, donc particulièrement long et méticuleux. Si ce vernis n'avait pas été déposé, on n'aurait pas eu ce problème-là. Donc c'est intéressant de voir aussi que certaines des méthodes de préservation, certaines des méthodes de protection des peintures que l'on envisage parfois, ont des conséquences sur l'altération des pigments qu'on a du mal à prédire et pour lesquelles on se rend compte des effets parfois un siècle plus tard, ce qui est le cas ici, où personne n'avait fait très attention à ce phénomène entre le début du XXe siècle et puis les années 1908-1909. Toujours sur Van Gogh, on va passer à un autre cas d'étude, toujours du même groupe, avec du même groupe d'Anvers, de Koen Janssens et d'autres collègues, et qui est une autre étude où je vous montre tout de suite le résultat, qui est une étude cette fois-ci sur une autre famille de pigments jaunes, qui sont un pigment qu'on appelle le chromate de plomb. Donc chromate de plomb, ça contient du chrome et ça contient du plomb. Donc encore un pigment particulier qui va apparaître sur la palette à partir du 19e siècle, et dont vous voyez ici l'état actuel d'un tableau, d'un détail d'un tableau, les berges de la Seine, donc du musée Van Gogh à Amsterdam, tel qu'on peut le photographier aujourd'hui. Et puis, d'après cette étude scientifique, ce que pouvait être ce tableau dans ses couleurs d'origine en 1887, lorsqu'il a été peint, et puis, d'après cette même étude et les mesures qu'ils ont pu faire, ce que pourrait être ce tableau en 2050, si on le laisse encore être exposé à l'humidité et à la lumière, puisque le pigment à base de jaune, à base de chromate de chromate de plomb, pardon, s'altère lui aussi. Et donc vous voyez le jaune qui progressivement devient marron jusqu'à devenir de plus en plus marron. Donc ça, c'est de nouveau le même genre de phénomène qui a aussi pu être étudié et qui, pour moi, est un petit peu de nouveau l'occasion de vous montrer une autre histoire de ces pigments et de nouveau la complexité de ce jeu entre les artistes et ces matières et la complexité qu'on a dans la compréhension de la nature de ces matériaux. Donc ce chromate de plomb donc, est un pigment qui a été très utilisé par les artistes du XIXe siècle, comme Van Gogh, comme Seurat, comme Cézanne et puis beaucoup d'autres. Et il existait sur le marché sous forme de plusieurs nuances de couleurs qui étaient dues soit à des changements de composition. Donc le chromate de plomb, on peut mettre cette composition de base donc d'un plomb et d'un chromate, hein, CrO4, 4 oxygènes pour un chrome, qui est la composition de base. Mais en fait, on se rend compte, en analysant des pots de peinture de cette époque-là, en analysant des pigments prélevés sur des toiles, que ce chromate de plomb peut être un petit peu plus compliqué et contenir également des sulfates de plomb mélangés dans une structure compliquée. Vous voyez qu'on écrit comme cela, ça veut dire qu'on a un plomb, un chrome, alors un peu moins d'un chrome, donc un moins quelque chose, et ce quelque chose est compensé par la présence de soufre, et puis de nouveau notre oxygène. Donc c'est parce qu'en fait on a une structure cristalline possible qu'on appelle de solution solide, passant d'une composition qui est celle-ci à une autre, et on peut faire un peu tout ce qu'on veut dans cette composition. En analysant, les fabricants de couleurs n'ont pas fait n'importe quoi, ils ont utilisé le vrai chromate de plomb, donc où le X est égal à 0, donc PbCrO4, qui avait donné un jaune, très beau jaune. Une autre composition où ils vont mettre donc un peu plus de sulfate entre 0,2 et 0,4 qui va donner une couleur citron. Et puis une troisième ici, à peu près 50% de chrome est retiré pour mettre des sulfates de plomb. Et à ce moment-là, on va avoir une couleur orangée. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'on va avoir trois nuances. Je vous rappelle la petite lettre de Vincent Van Gogh au tout début où il nous parlait des trois chromes, l'orangé, le jaune, le citron. Donc on est complètement en présence de ces trois chromes qui se trouvaient facilement chez un marchand de couleurs. Et là, j'ai été, pour préparer ce cours, regarder le nuancier de M. Sennelier, de la boutique Sennelier, concernant les pigments utilisés pour l'aquarelle. Et je vous ai mis les trois couleurs de cadmium que Sennelier continue à proposer à ses clients aujourd'hui. Donc vous voyez un petit peu ces variétés qui peuvent exister. Donc pour cela, on a aussi des informations qui nous démontrent bien cet usage permanent par les artistes de ces différentes nuances d'un même pigment. Donc ils vont appeler pigment de chrome ou jaune de chrome. Et là, vous voyez un magnifique petit dessin fait par Vincent Van Gogh dans une lettre qu'il a envoyée à son ami artiste Émile Bernard, où il décrit, comme d'habitude, les tableaux qu'il est en train de réaliser. Il fait ce dessin où il décrit également les couleurs qu'il est en train d'employer. Vous voyez là, donc, dans le fond, un citron vert pâle. Ici, vous avez du chrome 3, ici, vous avez du chrome 1, chrome numéro 2, ici. Puis après, vous avez de la mine orange à cet endroit-là. Donc on retrouve les couleurs dont je vous ai parlé au tout début du cours par cette petite citation. Donc là, c'est du bleu à cet endroit-là. Et ce tableau existe, vous le voyez ici, il est dans une collection en Suisse, à Lausanne. Et vous voyez les différentes couleurs qui correspondent à ces différents chromes qui sont à mettre en relation avec les couleurs que je vous ai montrées chez Sennelier. Donc avec le chrome numéro 1, qui est cette couleur-là, jaune, très jaune. Le chrome numéro 3, qui est cette couleur très orangée. Et le chrome numéro 2, qui est cette couleur ici, un peu plus intermédiaire. Et pas totalement citron dans ce cas-là, donc peut-être qu'il a aussi ajouté des pigments rouges à ce pigment chrome numéro 2. Donc vous voyez la sophistication de ces produits, et là aussi on peut étudier comment ils s'altèrent, lesquels s'altèrent plus que les autres, et pourquoi ils s'altèrent. Donc je ne vais pas rentrer dans tout le détail de ces études, en fait cette étude a fait l'objet de 4 publications différentes, tellement le problème est complexe et tellement la variété des questions est importante dans ce cas-là, vous montrer qu'on peut faire ce que je vous ai expliqué sur le soufre, cette fois-ci avec le chrome, et regarder le seuil d'absorption du chrome par cette méthode XANES, donc avec des rayons X et par rayonnement synchrotron, sur un échantillon prélevé sur un tableau de Van Gogh ou vieilli artificiellement. Donc là, je préfère vous montrer un vieillissement artificiel. Ça, c'est l'état d'origine de la couleur employée pour faire ce vieillissement, donc de ce chromate de plomb. Et puis là, vous voyez, après 800 heures d'altération sous une lampe xénon particulièrement puissante. Un échantillon est prélevé. Vous voyez que la couche jaune sous-jacente est toujours là, la couche brune est présente en surface. Et donc on va faire des mesures de spectroscopie d'absorption dans la couche jaune ou dans la couche brune. Vous voyez ici les choses. Et donc on va se rendre compte que l'échantillon non vieilli, c'est la courbe rouge qui est ici, complètement à droite. Et puis plus on va vieillir, plus l'échantillon va être vieilli, plus ce pic qui correspond au seuil d'absorption, enfin ce front qui correspond au seuil d'absorption, se déplace vers la gauche. Et donc ça signifie que le chrome va être dans un état plus réduit à la fin de ce phénomène d'altération qu'au début. Donc c'est ce qu'on appelle au niveau des degrés d'oxydation, on passe d'un chrome 6 à un chrome 3. Donc ça veut dire que l'oxydation du métal change, ça veut dire que son environnement change, donc ça veut dire que la couleur produite par le mélange qui est formé à l'arrivée n'est plus la même. Donc c'est ce que vous voyez en passant de ce jaune à cette couleur brune. Donc on arrive très bien à l'expliquer, on arrive avec tout cela à avoir un grand nombre d'informations qui nous précisent un petit peu l'évolution de ces couleurs. Et ça a amené ses collègues à regarder également quelles étaient la nature des lumières qui pouvaient conduire à ces altérations, en faisant une expérience sur des coupons donc de ce pigment chromate de plomb déposé sur une toile ou sur une feuille, et puis en l'exposant à une lumière, toujours une lampe xénon de 175 watts pendant 98 heures. Alors la lumière complète produite par la lampe, ça vous donne ça. Vous retirez tout ce qui est visible et vous gardez des ultraviolets, ça vous donne ça. Vous retirez tout sauf le bleu, ça vous donne ça. Vous retirez tout sauf le rouge, ça vous donne ça. Et donc on le réflexe très classiquement quand on a des effets photochimiques de ce genre-là et de dire que les ultraviolets vont être ceux qui vont conduire au maximum d'altération. C'est vrai, ça devient très vite marron, mais vous voyez que le bleu conduit aussi à beaucoup d'altérations. Physiquement, c'est assez logique puisque les deux rayonnements ultraviolet et bleu ont des longueurs d'onde relativement proches, donc ont des énergies relativement proches et donc vont induire facilement ces phénomènes. Et de là, ils se sont interrogés sur une mode actuelle qui est d'utiliser des nouvelles lampes plus froides et des nouvelles lampes avec un spectre lumineux plus contrôlé, qui sont des lampes blanches à base de diodes électroluminescentes. Et pour se rendre compte que ces lampes blanches à base de diodes électroluminescentes ont un spectre d'émission qui n'est pas totalement blanc, mais qui contient beaucoup de bleu, et que ces diodes peuvent poser un problème de conservation, puisqu'en fait, on éclaire avec plus de bleu ces peintures que usuellement avec des lampes qui seraient plus constantes dans la lumière envoyée, quelle que soit la longueur d'onde. Et donc, il pose la question sur le choix de la bonne lumière pour éclairer ce type d'œuvre, en essayant de les préserver au mieux. Donc, ça, ce sont des réflexions, bien entendu, qu'il faut chercher à continuer à faire, puisque ce que l'on voit sur ce pigment à base de chromate de plomb est réel, mais ne sera peut-être pas le même phénomène que ce que l'on va voir dans quelques instants sur d'autres matériaux, d'autres pigments, notamment à base de molécules colorantes. Donc tout cela, ça permet d'imaginer un petit peu plus quels étaient ces tableaux et des reconstitutions, puisque je vais aborder un peu ce thème, sont proposées par différentes personnes. Là, j'ai repris un travail fait à University College à Londres par un étudiant et qui a essayé de regarder comment deux versions des tournesols de Van Gogh, que vous voyez ici dans leur version d'origine, une à Munich puis l'autre à Londres, pouvaient être si on prend en compte ces altérations des chromates de plomb et des sulfures de cadmium. On connaît la composition des pigments et donc on peut réimaginer la nature des couleurs. Et donc vous voyez le grand changement finalement de contraste, de luminosité qui peut exister tout particulièrement entre ces deux tableaux. Bon, bien sûr, il s'agit d'une reconstitution virtuelle qui prend en compte ces couleurs des pigments purs, mais pas totalement la sophistication des mélanges que l'artiste a pu réaliser et des superpositions de couleurs que l'artiste a pu également réaliser. Voilà, je pourrais vous montrer un grand nombre d'autres exemples et passer 3 heures à vous raconter une grande liste des pigments qui changent de couleur au cours du temps, puisqu'il y en a de nombreux autres, à la fois dans les couleurs bleues, dans les couleurs vertes notamment, et pas que des jaunes. Mais je voudrais regarder un autre phénomène, cette fois-ci, qui est l'affadissement des colorants organiques, qui ne va pas tout à fait être la même chose. Cette fois-ci, ce n'est pas des sels métalliques, comme ce que l'on a vu, qui se dégradent pour former d'autres sels métalliques. Ce sont des molécules organiques qui vont perdre leur couleur et qui vont faire qu'un tableau va complètement être décoloré au cours du temps. Donc on a déjà eu l'occasion de regarder certains de ces colorants d'intérêt pour la peinture, et notamment ces colorants à base d'anthraquinone. Donc je vous avais montré cette molécule de base qu'on appelle une anthraquinone, qui est de couleur jaune, et quand je vous avais expliqué un petit peu les phénomènes d'absorption de la lumière par ce type de molécule, vous voyez ici le spectre d'absorption de cette molécule anthraquinone, donc en bleu, et qui va absorber beaucoup dans les ultraviolets ici, et puis un petit peu dans d'autres domaines, ce qui va faire la couleur jaune de cette molécule. Je vous avais également montré une autre molécule très très utilisée dans la peinture, qui est l'alizarine, qui est cette fois-ci de couleur rouge et qui est très proche de l'anthraquinone. Vous voyez, c'est la même forme de molécule, la même base. C'est pour ça qu'on parle de colorant anthraquinoïque, mais on a sur le côté deux groupes qui sont deux hydroxydes, deux OH ici, et qui modifient considérablement les propriétés colorantes de la molécule. En fait, c'est ce qu'on appelle des groupes oxochromes, et ces groupes oxochromes sont très fortement ionisables et produisent un décalage, finalement, des bandes d'absorption de ces molécules des bandes d'absorption de la lumière par ces molécules. On en a d'autres qui vont aussi être du même genre. Vous voyez, la purpurine, c'est la même chose que l'alizarine, mais encore avec un hydroxyle ici en plus. Et là aussi, là on a un beau rouge pour l'alizarine, la purpurine est un peu plus foncée. Et puis après, vous avez encore d'autres composés encore plus compliqués, l'acide carminique, qui est rouge carmin, la couleur carmin. Et vous voyez qu'on part de la même chose, mais en greffant cette fois-ci toute une série d'autres groupements autour pour une molécule beaucoup plus complexe. Donc on est dans une même famille de produits une même famille de produits d'intérêt considérable pour la peinture, puisque ce sont des produits qui ont été très largement utilisés depuis l'Antiquité. Parce que l'alizarine et la purpurine sont des produits naturels que l'on trouve très facilement, que l'on extrait très facilement des racines des plantes de la famille de la garance. Donc en fonction des différents types de garance, on peut avoir de l'alizarine ou de la purpurine en plus ou moins grande quantité, mais c'est comme ça, en extrayant ces colorants des racines de garance, qu'on a fabriqué toute une série de colorants rouges employés depuis l'Antiquité. L'acide carminique, lui, est extrait d'un insecte, le kermès, qui existait dans nos régions, et puis surtout la cochenille, qui existait en Amérique, et notamment au Mexique, qui vit et qui prolifère sur des cactus, et qui, quand on l'écrase, fournit un magnifique colorant rouge carmin, et donc parce que cette petite cochenille, qui ressemble à une toute petite coccinelle noire, contient beaucoup de cette molécule d'acide carminique. Donc ce sont des matériaux très utilisés dans la peinture, relativement stables au cours du temps pour la plupart d'entre eux, rarement décriés d'ailleurs pour une altération, jusqu'à ce que la chimie du 19e siècle les synthétise, donc les synthétise de la même manière pour obtenir les mêmes molécules pures, mais aussi des formules de manière différente sur des substrats particuliers qui vont faire que ces colorants ne seront plus si stables et que notamment l'acide carminique va pouvoir perdre sa couleur. Et c'est un peu ce que je voudrais qu'on regarde maintenant, ainsi que d'autres molécules colorantes. Je ne vous ai pas fait la liste, parce que là aussi, il y a un grand nombre de molécules colorantes qui ont été utilisées, et de différents types de familles. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces mécanismes de décoloration des colorants organiques ? C'est comme pour les matériaux inorganiques, comme pour les pigments inorganiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'exposition à la lumière est un paramètre important, l'humidité est un paramètre important, l'oxygène de l'air est nécessaire pour créer des oxydations qui font perdre cette couleur. Dans certains cas, on s'est rendu compte que des changements de température pouvaient également être importants, et puis également que des réactions pouvaient se produire avec des polluants atmosphériques, notamment liés à l'industrie, les oxydes d'azote, l'hydrogène sulfuré, différents types de composés qui ont pu induire des réactions. Tout ce que je vous dis là est d'ailleurs vrai aussi pour les produits inorganiques. Mais également, on a de l'action de micro-organismes, des bactéries vont pouvoir se réjouir de certaines substances organiques, certaines moisissures également. Et puis, on a aussi des réactions avec différents autres composés de la peinture. Donc, on est dans toute une série encore de panoplies de possibilités d'interaction entre l'environnement, quel qu'il soit, microbiologique, physico-chimique, et puis également les pigments employés en peinture. Donc aussi comme définition, parce que c'est aussi un point qui est très très important, la plupart de ces colorants organiques vont être utilisés sous la forme de ce que l'on appelle des pigments laqués. C'est-à-dire que ces colorants ne sont pas très pratiques à utiliser en tant que tels, de manière pure pour la plupart d'entre eux. Ils ne fabriquent pas une jolie poudre qui va se disperser dans de l'huile pour fabriquer une couleur parfaite. Ils vont être utilisés en fixant le colorant à la surface d'un substrat minéral. Un substrat minéral qui très longtemps a été un composé d'aluminium, comme de l'alun, par exemple, mais qui au XIXe siècle devient plus varié, puisqu'on invente de nouveaux substrats censés être bien meilleurs, notamment des composés d'étain, de fer, de calcium, des mélanges de composés aluminium, calcium, étain, aluminium. Et on a là aussi toute une zoologie de production, et chaque marchand de couleurs va essayer de trouver la meilleure formule pour avoir la plus belle couleur, la plus brillante, si possible la plus stable, mais de temps en temps il se trompera. Non, alors par exemple, l'alizarine, au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, sera en général déposé sur un composé d'aluminium, et l'acide carminique va être souvent déposé sur un composé d'étain. Et ils se rendent compte que c'est mieux et plus pratique pour cette fixation de couleur. Ça, ce sont pour les pigments laqués, mais d'autres colorants vont pouvoir être solides. Et des colorants solides qu'on va précipiter pour en faire une poudre, cette fois-ci sous forme d'un sel de la molécule colorante que je vous ai montré. Alors par exemple, ça va être le cas de l'éosine, dont je vais vous parler dans quelques instants, qui va être fabriqué sous forme de sel de sodium ou de potassium, et puis également d'un autre produit industriel, cette fois-ci du XXe siècle, dont je vous parlerai, qui est le lithol, et qui est un très beau colorant rouge, et que l'on va associer à du calcium pour en faire une poudre pigmentaire. Alors, venons-en à l'éosine, pour commencer, en regardant ce premier cas, qui est de nouveau un tableau de Vincent Van Gogh au musée d'Orsay, que vous avez ici, donc le portrait du docteur Gachet, avec des iris, ici dans la main, sur la table. Et puis ici, une copie à l'aquarelle qui a été faite par Blanche de Rousse, donc qui était une amie de la famille du docteur Gachet, à peu près une dizaine d'années après la réalisation de ce tableau par Van Gogh, tout à la veille de sa mort quasiment. Vous voyez que beaucoup des couleurs sont les mêmes. Bon, il faut faire abstraction, bien entendu, du phénomène que là, on est en peinture à l'huile et là, on est en aquarelle, donc on n'a pas forcément les mêmes effets, notamment sur la veste. Mais je voudrais attirer votre attention sur le fait que ces fleurs ici, les iris, sont rouges sur cette aquarelle, alors qu'ils sont totalement décolorés sur la peinture à l'huile. Donc ce phénomène d'altération a été intéressant, a pu être étudié au Centre de recherche et de restauration des musées de France. Un prélèvement a été fait pour regarder ce qui pouvait se produire dans ce cas-là et comment, finalement, on pouvait observer et pourquoi on observait cette différence entre l'aquarelle et la peinture à l'huile elle-même. Donc si on prélève cette peinture à l'huile, vous avez ici un prélèvement donc, qui a été fait, vous voyez la couche de peinture qui est épaisse, vous voyez la surface qui est très blanche et puis en dessous très rouge. En fait, vous remarquez également que des grains bleus sont présents également, mélangés à la couleur rouge ici, tout comme au-dessus. En fait, la chose qui s'est produite ici, c'est que la couche était entièrement rouge à l'origine, mais que par un effet de décoloration, la surface a complètement perdu sa couleur, et on ne la voit qu'en dessous, dans la couleur d'origine, telle qu'elle pouvait être au début. Les analyses ont été faites, et en fait, la couleur rouge ici correspond à de l'éosine, donc qui est un colorant de synthèse, inventé en 1871 pour une forme qu'on appelle le rouge impérial, qui est celle-là, et puis en 1875 pour une autre forme, l'éosine Y, qui est ici. Vous voyez toujours les mêmes philosophies hein, de ces composés aromatiques avec toute une série de groupements autour et qui vont faire que les propriétés colorantes seront plus ou moins importantes et plus ou moins décalées dans le spectre lumineux. Et donc ces colorants éosines ont intéressé les fabricants de pigments très très vite et ont proposé, vous voyez, 1875, là on est en 1880 pour Van Gogh, et ont proposé la fabrication d'un pigment qu'ils ont appelé la laque géranium. Donc ça vous donne l'idée de la couleur qu'ils ont recherchée en fabriquant un pigment à base d'éosine. Et en fait, cette éosine était préparée avec de l'aluminium et mélangée avec du blanc de plomb pour fabriquer la bonne nuance de cette laque géranium et vendue aux artistes, qui donc ont pu l'utiliser et qui donc, par effet photochimique à la lumière, s'est décolorée pour nous donner finalement des traces blanches bleuâtres, telles qu'on les voit sur la fleur d'iris, et plus du tout le rouge qui était présent à l'origine. Donc ça, c'est le constat que l'on peut faire à partir de l'observation d'un échantillon de Van Gogh, mais d'autres groupes ont recherché à comprendre un petit peu mieux et à évaluer ce qui pouvait se produire lors de ce phénomène de modification de couleur, à quelle vitesse cela pouvait avoir lieu, quels étaient les phénomènes, quels étaient les paramètres importants. Et donc une équipe, donc en 2005, s'est intéressé à différents colorants, notamment à cette éosine, et a déposé sur des supports des traits de pinceau plus ou moins épais. Donc là, vous voyez un qui est d'une épaisseur assez constante, là un peu plus pâteux et donc plus épais par endroits que par d'autres, d'un certain mélange d'éosine à une certaine concentration avec du blanc de plomb, ou même ils ont fait des expériences avec d'autres types de pigments qui pouvaient être associés. Et ensuite, ils ont fait un traitement terrible, un traitement photochimique terrible, c'est-à-dire qu'ils ont exposé ces peintures à l'éosine pendant 1000 heures avec une puissance lumineuse forte de 10 000 lux à la surface de l'échantillon. Et donc, c'est-à-dire que ces 1000 heures d'exposition reviennent à peu près à 16 années d'exposition dans les conditions normales d'un musée, avec la lumière naturelle normale dans un musée. Donc, ils ont vieilli comme ça, très rapidement, l'équivalent de 16 ans de présentation du tableau. Et donc, vous voyez que dans ces conditions-là, l'éosine, au bout de 16 ans de présentation normale, a perdu complètement ses couleurs quand elle est en couche relativement fine. Quand elle est en couche très épaisse, ce qu'avait fait Van Gogh, hein, je vous rappelle, ici, l'échantillon de peinture, vous voyez, l'échelle est de 100 microns, hein, donc on avait une couche qui faisait au moins 200 ou 300 micromètres, c'est une couche très épaisse. Mais à ce moment-là, on a encore quelques petites réminiscences de couleurs rouges qui peuvent exister, puisque la couche devient tellement épaisse, elle est quand même un petit peu transparente, ce qui fait qu'on va encore voir les couches qui ont préservé la couleur sous-jacente à la matière altérée. Alors, comment étudier ça de manière un peu plus concrète? On peut le faire avec des mesures de colorimétrie, donc des mesures du spectre de la couleur de ces échantillons au cours du vieillissement, au cours du temps. Et c'est ce que vous avez ici dans un diagramme qui vous représente l'évolution de cette couleur dans un modèle chromatique qu'on appelle le modèle CIE-LAB, qui est un modèle chromatique qui vise à décrire la couleur d'un matériau avec juste trois paramètres. Un paramètre qui montre la luminosité, la lumière, la clarté du matériau, qu'on appelle le paramètre L, donc qui n'est pas celui qui nous intéresse ici. On va s'intéresser à la manière dont le rouge est présent. Donc un autre paramètre qui décrit un axe, comme vous le voyez ici, qui va du rouge d'un côté jusqu'au vert, puisque les deux couleurs ne peuvent pas être en même temps. Et donc on va avoir, plus le paramètre A étoile est important, plus c'est rouge. Donc là, dans mon petit graphique, là vous êtes à 0, 5, 15, 25, etc., 55. Donc là, quand on a 55, on a un pigment qui est très rouge au début. Et puis après, un autre axe qui est B, qui va du bleu vers le jaune. Et donc là, c'est le B, donc c'est très rouge, mais avec quand même un petit peu de jaune toujours. Quand on est ici, par exemple, c'est un pigment à base d'éosine qui est légèrement jaune et puis très, très rouge, donc qui est un rouge très légèrement orangé. Et puis, vous avez les points ici qui sont les mesures qu'ils ont pu effectuer au cours de ces 1000 heures d'altération sous cette lampe puissante. Et vous voyez, pour un pigment ici préparé, vous voyez la manière dont il perd d'abord sa teinte jaune et puis après, il perd sa teinte rouge. l'un pour un autre, vous voyez le même type de phénomène, et ainsi de suite pour tous ces matériaux qui tous vont arriver à la fin dans une zone qui est proche de zéro ici, c'est-à-dire dans une couleur blanche. Donc on arrive à suivre comme ça, par ce type de méthode de spectrocolorimétrie, très précisément et à quantifier l'évolution de la couleur d'un tableau, et ça permet de caractériser finalement la vitesse de vieillissement potentiel de tel ou tel pigment en fonction des conditions atmosphériques et puis en fonction de la lumière qui est utilisée pour irradier cet objet. Donc là, les études avaient été faites avec une lumière comparable à la lumière du jour. Ils n'ont pas fait les mêmes études que je vous ai montrées sur les chromates de plomb, en essayant de regarder l'effet des ultraviolets, l'effet de la lumière bleue, de la lumière rouge sur ces différents matériaux. Et là aussi, ça pourrait être des choses très intéressantes pour comprendre un petit peu mieux les phénomènes chimiques sous-jacents à tout cela, puisqu'en fait, on connaît très très peu les dégradations ultimes qui se produisent. Je vous ai montré gentiment ici des formules développées de l'éosine. Qu'est-ce qui se produit comme nouvelle molécule au cours de la dégradation de cette éosine? Ça mériterait toute une série de recherches. Le même type de recherche, par la même équipe d'ailleurs, je ne vous remets pas les mêmes types de graphiques, a été réalisé au sujet d'un autre produit qui est l'acide carminique, donc extrait de la cochenille, ou synthétisé artificiellement au XIXe siècle. Et donc là, vous avez un cas d'une application finalement de cette décoloration de l'acide carminique qui a été observée et proposée très récemment par Francesca Casadio, donc elle avait fait le deuxième séminaire du cours cette année, au sujet d'une peinture d'Auguste Renoir, donc Madame Léon Clapisson, et qui est conservée à l'Art Institute de Chicago. Donc vous voyez la peinture telle qu'elle est aujourd'hui, et vous voyez la peinture telle qu'on peut imaginer qu'elle était à l'origine. Alors pourquoi ils peuvent dire cela? Ils peuvent dire cela parce que, exactement de la même manière que sur le tableau de James Ensor, ils se sont rendus compte, en décadrant le tableau originel de Renoir, que sous le cadre, la peinture était très rouge, donc il y avait eu un effet d'affadissement des couleurs qui s'était produit sur cette œuvre. Ils ont prélevé un échantillon, ils ont pu caractériser la nature du colorant, démontrer qu'il s'agissait d'acide carminique, mesurer précisément la couleur de ce colorant, et de là, ils peuvent proposer cette reconstitution. Donc, où en fait, cette jeune femme, qui était la femme d'un grand client du peintre, a été représentée avec un fond coloré, particulièrement rouge, violacé même, on peut dire, et qui change complètement la perception que l'on peut avoir de cette œuvre. Donc c'est intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires au sujet de ce tableau, puisque ça a posé toute une série de questions sur la validité de ces modèles de couleurs, sur la façon dont on pouvait réfléchir à la restauration de ces œuvres. Et donc, dans un travail très interdisciplinaire, les chercheurs de Chicago, en équipe, ont pu regarder un petit peu les différents aspects. Donc, la restauratrice, par exemple, qui a travaillé sur ce tableau, a bien cherché à observer s'il s'agissait bien des couleurs d'origine qui étaient présentes sous le cadre ou non. Et donc, a fait des observations au microscope de la nature des grains colorés ou décolorés qui étaient présents, et s'est bien rendu compte que les mêmes particules qui étaient rouges, violacées sous le cadre, apparaissaient translucides là où elles avaient été altérées à la lumière. Ils n'ont pas été plus loin pour l'instant, malheureusement, à ma connaissance, dans la caractérisation de ces produits. Et donc ensuite, ils ont utilisé différentes techniques d'analyse pour caractériser ces colorants, et donc arrivé à ce résultat qui est très intéressant de nouveau, puisqu'on arrive à avoir une perception très différente de cette jeune femme. Perception très différente et qui a été commentée, je suis assez d'accord, en disant que ce fond violet finalement change complètement la couleur de la carnation du visage, sur laquelle ils ont pu vérifier que l'acide carminique n'avait pas du tout été employé. Donc la carnation du visage est bien réelle, telle que le peintre l'avait voulu. Et le fait que vous ayez cet environnement violet autour de ce visage, finalement, change le teint et, d'une certaine manière, font paraître beaucoup plus jeune cette femme sur le tableau tel qu'on peut l'imaginer à l'origine par rapport à la version d'aujourd'hui. Donc, ces informations sont intéressantes et donc font l'objet actuellement d'une exposition inaugurée début avril à l'Art Institute de Chicago pour expliquer ces démarches scientifiques et montrer comment, finalement, on peut effectuer ces recherches interdisciplinaires. Vous voyez là, notamment sur le bord du cadre, vous voyez très bien ce rouge pourpre très sombre tel qu'il est sur la reconstitution ici. Donc le tableau d'origine sans cadre pour une fois et la proposition de reconstitution derrière le cadre du tableau tel qu'il est d'habitude exposé dans le musée. Et là, ça nous amène à réfléchir un petit peu à la manière dont les peintres eux-mêmes se sont préoccupés de ces problèmes. Et Auguste Renoir est un des peintres pour lequel on a le plus d'informations sur sa démarche vis-à-vis de cet affadissement des couleurs produites par l'industrie chimique avec ces nouveaux colorants. Et Auguste Renoir racontait, par exemple, à Gaston Bernheim de Villiers, « Je mets beaucoup d'huile pour peindre et j'accentue la couleur rouge, il précisait la laque carminée, car le temps fera vite son œuvre plus tard. » Vous voyez, donc il avait cette notion que sa peinture allait vite se décolorer et donc il fallait en mettre plus. Et on a d'autres commentaires comme ça, notamment de son fils, Jean, qui nous dit, donc dans un ouvrage qui a été publié, enfin republié assez récemment, mais Renoir donc, raconte son père et dit « Ayant constaté le danger de peindre pour l'immédiat sur ses toiles de jeunesse, dont certaines tournaient au noir, mon père mit progressivement au point une méthode à longue échéance. Il en résulta une peinture capable de résister au temps, mieux calculée pour que l'action du temps devienne un bénéfice. » Donc, je ne sais pas si on peut l'appliquer sur ce tableau de l'Arts Institute de Chicago, puisqu'on dit que la jeune femme, en même temps, paraît plus belle et plus jeune sur ce tableau. Donc, je ne sais pas si Renoir a envisagé jusqu'à quel point cette couleur pourpre pouvait disparaître au cours du temps. Et un autre auteur, critique d'art et peintre, André Lotte, nous dit, au sujet de toujours de Renoir, « L'une des découvertes techniques les plus instructives de Renoir est d'avoir reconnu que la peinture ne se fait pas seulement avec les éléments couleur et dessin, mais avec l'élément temps. À l'instar des grands classiques, il remplaça sa palette compliquée du début par un choix réduit de couleurs primaires. C'est ainsi qu'il abandonna le violet impressionniste et quelques lacs instables pour le noir et les terres qui vieillissent bien. » Vous voyez de nouveau ces préoccupations qui sont extrêmement intéressantes pour essayer de suivre finalement sur des longues périodes de la vie d'un artiste qui a produit énormément d'œuvres et qui a vécu très longtemps, la manière dont il a pu voir l'évolution de ses œuvres. Et on raconte notamment que Renoir, voyant 20 ou 30 ans après l'avoir peint sa célèbre peinture du bal au Moulin de la Galette, s'est exclamé « mais ce n'est pas mon tableau, le mien était violet ». Et le violet, là aussi, s'était décoloré et donc avait profondément modifié les couleurs de l'œuvre d'origine. Donc tout cela nous amène au problème de la réinvention de ces couleurs et de comment on peut réussir finalement aujourd'hui à avoir des démarches scientifiques précises qui permettent de proposer au public ou aux historiens de l'art une véritable réflexion sur ces couleurs originelles et sur le sens que pouvaient avoir ces peintures à l'origine. Donc ça peut se faire, comme je vous l'ai déjà montré sur les tournesols de Van Gogh, par un petit jeu informatique, plus ou moins réel, je vais dire, et qui permet de faire ces reconstitutions numériques. Donc là, vous avez un autre cas d'un tableau, les iris, du Metropolitan Museum de New York, tel qu'il est aujourd'hui, et tel qu'il peut être recoloré quand on considère que ce vase, avec ses iris, avait été peint devant un fond rose. Donc bien entendu, le contraste des couleurs, et on reviendra sur les contrastes chromatiques et les recherches effectuées par ces artistes entre la couleur de fond et la couleur bleue des fleurs, avait bien entendu un rôle très important dans la perception de ces œuvres. Bon, ce sont des démarches un peu empiriques qui parient finalement sur une teinte de nuance pour des raisons esthétiques et pas toujours basées sur une recherche très approfondie, puisque c'est souvent très difficile de mesurer avec précision ce que pouvait être la couleur d'origine. Je pense que des outils d'analyse vont être mis au point dans les années qui viennent pour réussir de plus en plus à caractériser les molécules dégradées et de là pouvoir mesurer réellement ce qu'était la couleur d'origine, c'est-à-dire la dilution des molécules colorantes dans tel ou tel autre pigment. Donc ça, on va le faire, j'en suis certain, tellement ce type d'approche prend de l'importance aujourd'hui. Alors ça l'a déjà pris dans d'autres types de cas, et notamment dans des démarches très précises de colorisation d'œuvres, cette fois-ci par réalité augmentée. Et donc je voudrais parler de deux exemples dans les 10 dernières minutes qui me restent. Très rapidement, un premier exemple qui est très célèbre et qui est celui d'une expérience qui a été lancée au moment de la restauration de la façade de la cathédrale d'Amiens, qui a été lancée pour essayer de noter toutes les traces de couleurs qui existaient encore sur les sculptures de cette cathédrale. Donc vous voyez là, au moment de la restauration, qui était une restauration très précise, effectuée entièrement avec des techniques de laser pour retirer les encroûtements noirs à la surface des sculptures, vous voyez quelques traces de polychromie qui restent par endroits sur cette sculpture, donc notamment sur le visage, un petit peu sur la couronne, mais à l'aide de microscopes, on peut voir de microscopiques traces un peu partout sur ces objets. Et donc il a été lancé un grand programme avec une entreprise qui s'appelle Kerzo, et la ville d'Amiens, pour essayer de faire des recherches archéologiques sur quelles étaient les couleurs, et notamment la symbolique des couleurs de tous les saints, pour vérifier, et puis quand on n'avait plus aucune trace de couleur, savoir quelle était la couleur de telle robe ou de tel vêtement, et puis également de noter, par le travail de tous ces restaurateurs, toutes les traces, ce qui a permis de proposer des colorisations virtuelles de ces sculptures par projection de lumière. Et c'est vraiment un très joli travail donc, qui est montré chaque soir pendant la période de l'été pour donner une autre vision de cette cathédrale. Vous voyez là une photographie de ce jeu de projection sur l'ensemble des éléments sculptés de cette cathédrale pour réussir à montrer quelles étaient les couleurs des vêtements de tous ces saints, quelle était la polychromie présente sur tous ces visages, etc. Donc c'est une démarche très intéressante de réalité virtuelle que l'on va créer dans l'ordinateur, puis projeter à l'aide de projecteurs pour offrir sur l'objet lui-même la vision, une certaine vision, disons, de ce que pouvaient être ces couleurs à l'origine. Donc pour cela, il y a eu d'abord un travail de photographie des portails de la façade pour avoir une vraie vision en trois dimensions, ou en tout cas stéréoscopique, des sculptures. Puis ensuite, un traitement numérique des clichés pour corriger toutes les déformations dues à nos prises de vue photographiques, mais également pour coloriser les sculptures avec les informations archéologiques que l'on avait, et puis travailler les phénomènes d'ombre et de lumière, puisque bien entendu, par une projection de lumière, il va falloir jouer là aussi sur l'intensité de la lumière en tel ou tel endroit pour respecter également les reliefs et la manière dont la lumière naturelle pouvait éclairer ces sculptures. Et donc par ce travail sur les ombres, il a été possible de faire disparaître certains angles de projection dus à l'utilisation d'un petit nombre de projecteurs, et puis également d'atténuer certains phénomènes d'aplat qui retirent tout le relief aux sculptures et qui nous font perdre une perception du réel de la façade en trois dimensions. Ensuite, ils ont cherché à réfléchir à ce qu'était l'éclairage médiéval, et notamment à l'utilisation des lampes à huile qui éclairaient l'intérieur des portails pour en donner une autre dimension, là aussi, le soir, et notamment cette dimension jaune que vous voyez un petit peu apparaître ici. Et puis ensuite, technologiquement, il a fallu mettre au point un système de projection, et notamment grâce à 9 projecteurs très puissants, dont un de 7 kW, et qui ont posé 1001 problèmes et 1001 défis technologiques, notamment dans la façon d'avoir une image projetée qui allait résister à la chaleur très intense produite par ces projecteurs. En fait, ça n'a pas été si simple, ils ont dû mettre au point là aussi différentes techniques. Donc vous voyez, en fait, il y a un projecteur pour l'éclairage de la rose, qui est placé à l'intérieur de la cathédrale, 6 pour chacun des 3 portails. En fait, il faut projeter de 2 directions différentes la lumière de façon à gommer les phénomènes d'ombre, et puis également 2 éclairages très puissants pour la façade de la cathédrale et notamment pour réussir à l'éclairer jusqu'à son sommet. Donc cet exemple, j'aurais pu en prendre d'autres puisque d'autres cathédrales maintenant ont fait l'objet du même type de recherche et sont proposées de la même manière, notamment Poitiers, Rouen, Chartres, Reims, etc., est particulièrement illustratif finalement de cette évolution des couleurs que l'on n'arrive plus à percevoir, puisque quand on visite ce type d'œuvre de jour, on ne se rend absolument pas compte et on oublie complètement cette dimension polychrome qui pouvait exister. Ce n'est pas le seul aspect que l'on peut avoir. Il y a une autre expérience qui a été menée récemment, plus récemment, cette fois-ci par l'Université de Harvard et par le Centre de Restauration et le Musée de l'Université, autour de tableaux qui sont des grandes peintures de Marc Rothko, donc offerte en 1963 par l'artiste à l'université. Et l'artiste avait offert 5 panneaux, donc on appelle les Harvard Murals, 5 panneaux de grande dimension, en disant à l'université, je vous les offre, mais à une condition, c'est qu'ils soient montrés. Ce n'est pas pour que vous les mettiez dans vos réserves, mais que vous les montriez au public, à vos visiteurs. Et donc ces 5 très grands panneaux ont été exposés à l'intérieur d'un des salons de réception que vous voyez ici, de l'université, salon de réception qui était particulièrement adéquat pour ce genre d'activité, avec de la belle lumière du jour, particulièrement intense, du soleil, mais malheureusement particulièrement néfaste pour les peintures qui se sont rapidement décolorées et qui ont fait qu'une quinzaine d'années plus tard, une partie des peintures avait été tellement décolorée que l'université a décidé de cacher ces peintures, de les mettre en réserve et de les oublier, jusqu'à temps qu'ils assument finalement ce problème de conservation, comme je vous ai montré, il y en a dans tous les musées du monde, et de façon à essayer de réfléchir à une manière d'exposer au public ces peintures telles qu'elles pouvaient être à l'origine, sans les repeindre, puisque le jeu de la restauration n'est absolument pas de redéposer des couleurs pour redonner un état originel à ces œuvres. Donc là, j'ai une photo malheureusement que noir et blanc de cet état en 1963 de cette salle. On peut comparer ces peintures à d'autres œuvres de Marc Rothko. Celles-ci sont à la National Gallery of Art de Washington, donc fait quelques années auparavant. Et donc, vous voyez, avec ces aplats rouges et ce ton violet. Donc, dans le cas des œuvres de Harvard, la couleur du fond des peintures a changé du pourpre au bleu. Et donc, les analyses ont été faites, et ça a permis de montrer qu'à l'origine, le pigment, la peinture, avait été faite avec un pigment outre-mer, du lapis lazuli artificiel, mélangé à du rouge, en fait, du rouge de lithol, donc un colorant organique très particulier, sous forme de sel de calcium, je vous en parlais dans un instant. Et donc le fait qu'une partie des couleurs, le rouge de lithol, se soit altéré, fait que le fond maintenant est bleu, et donc on a complètement perdu l'équilibre des tonalités de la peinture. Et ça influence de nouveau complètement notre appréciation sur cette œuvre. Donc qu'est-ce que c'est que ce lithol? C'est un pigment de synthèse qui a été découvert à l'extrême fin du 19e siècle, 1899, donc en Allemagne, par un chimiste de l'entreprise BASF, à l'origine de l'énorme conglomérat de l'industrie chimique BASF, et qui était une entreprise spécialisée dans la synthèse des colorants, et notamment des colorants dérivés d'une molécule particulière qu'on appelle l'aniline. Et donc ils ont, comme cela, fabriquer cette molécule que vous voyez ici en formule développée avec deux azotes, une double liaison ici, et puis des cycles aromatiques de part et d'autre. Donc c'est ce qu'on appelle un colorant azoïque. Et puis ce colorant azoïque, pour être utilisé, doit être précipité en présence d'un élément métallique que vous avez ici sous forme M, symbolisant un métal. Ça peut être l'un ou un métal ou un autre, en fonction de ce que l'on cherche à avoir. Donc aujourd'hui, si on regarde un petit peu les conseils de l'industrie chimique, on se rend compte que, notamment l'entreprise BASF, propose d'utiliser un pigment de ce type-là, le litol, mais sous forme de sel de manganèse, c'est ce qui est marqué dans le catalogue, sur le site de l'entreprise, parce que c'est le plus résistant à la lumière. Mais on peut le fabriquer sous forme de sel, d'autres types de métaux, plus ou moins résistants. Et donc ces matériaux-là peuvent être étudiés, et notamment une étude publiée en 2010 par Stenger, donc justement du centre de conservation de l'université de Harvard, a permis de regarder la structure cristalline de ce pigment, hein, donc qui forme des cristaux, ce sel de colorant forme des cristaux, que l'on peut caractériser et se rendre compte que différents fabricants, Capel, Ansco, C-Pigments, Piosa, utilisent ce matériau soit à l'état pur, soit parfois mélangé avec d'autres constituants, comme des sulfates de barium et des oxydes de titane. Donc on a là des informations qui sont intéressantes qu'on peut associer avec d'autres types d'informations présentes dans des catalogues de description de l'utilisation de ces colorants pour l'industrie. Donc toujours notre colorant litol, hein, donc il a le nom de code PR49, on peut donc l'associer à du sodium, et là ça va fabriquer une teinte rouge jaunâtre ou rose jaunâtre. C'est intéressant, ça donne déjà une couleur intéressante. Malheureusement, c'est un produit qui est très soluble dans l'eau, et donc qui va être utilisé très peu comme pigment pour ces raisons-là. Il peut être associé à du barium, et à ce moment-là, ça va donner une teinte rouge bleutée. Ça peut être aussi rose, en fonction de sa dilution. Et c'est une couleur qu'on utilise beaucoup, notamment pour les encres d'imprimerie, et puis pour d'autres cas, notamment toutes les peintures sur plastique, sur un grand nombre de types de matériaux, et pour les pigments pour artistes, donc ce composé de barium. Le composé de calcium va avoir à peu près la même couleur et exactement les mêmes propriétés. Donc, que vous ayez du calcium ou du barium associé, ça ne change pas grand-chose à l'intérêt du pigment. Après, vous avez un autre composé, cette fois-ci avec du strontium, qui est plus brillant, également légèrement bleuté, et qui, là, est très utilisé dans l'industrie cosmétique. Vous voyez, chacun, finalement, a sa destination, et chaque nuance va être importante de ce point de vue-là. Et l'industrie chimique, là aussi, a amélioré tout cela en incorporant, après, ce pigment dans une résine, donc dans les années 60, pour le rendre plus brillant, plus facilement dispersable dans le liant, plus transparent. Et donc, ça donnait des propriétés très intéressantes, notamment pour l'imprimerie. Et c'est pour ça que l'imprimerie utilise énormément ce colorant à base de litol. Maintenant, ce colorant à base de litol dans un livre n'est pas forcément grave, puisqu'il sera à l'abri de la lumière. Ce n'est pas tout à fait le cas en présence d'une peinture. Et donc, les mêmes chercheurs ont fait différentes expériences pour caractériser l'évolution de ces pigments. Donc, soit en prenant le pigment pur exposé à la lumière, visible, uniquement la lumière visible, pas d'ultraviolet, il ne se passe rien. Le pigment pur exposé à la lumière visible avec des ultraviolets change un petit peu de couleur, mais il reste rouge, mais légèrement orangé. Donc, je ne vous mets pas tous les détails de temps et de puissance de lumière. Ensuite, ils vont faire une expérience avec un pigment associé à de la colle, donc la colle de peau de lapin, et un pigment associé à de la colle et à de l'outremer. C'est ce que vous avez sur ce graphe, qui vous représente la durée en minutes et l'évolution de la couleur dans une fonction là, qui est liée au diagramme LAB que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, un paramètre d'évolution qui nous permet de quantifier la manière dont la couleur change. Donc, plus le nombre ici est grand, plus la couleur a changé. Et là, vous avez des comparaisons avec certains standards qui ont été proposés justement pour évaluer la facilité d'affadissement d'une couleur ou d'une autre. Et donc, vous voyez en fait que le rouge avec de la colle donne ces deux courbes ici, donc qui n'ont pas exactement la même épaisseur de matière. C'est pour ça que la couleur change grossièrement de la même manière, mais pas exactement pareil. Et puis, le rouge de litol avec de l'outremer et de la colle, vous voyez encore deux autres courbes. Dans tous les cas, on se rend compte que le fait que de la colle soit ajoutée au litol a une importance et donc va produire cette décoloration. Et s'il n'y avait pas de colle ajoutée, ça ne produirait pas forcément cette même décoloration. Vous voyez là encore un paramètre qui est très difficile à évaluer. Et là, pour l'instant, on ne comprend absolument pas non plus ce qui se passe dans le détail chimique de ces réactions. On ne fait que constater cette évolution de couleur et cette décoloration. Donc, pourquoi faire toutes ces recherches? Parce qu'on peut fabriquer un facsimilé d'un de ces tableaux de Marc Rothko avec le même pigment litol, formulé de la même manière, associé au même outremer, à la même colle. Vous voyez le tableau qui a été refabriqué par ces chercheurs. Et puis ensuite, on va pouvoir l'éclairer avec une lumière importante sur la moitié du tableau. Vous voyez, cette partie-là est parfaitement préservée et celle-là est décolorée, vous le voyez par endroits. Et puis ensuite, on va pouvoir faire la soustraction de ces deux images pour dire, ben voilà ce qui a changé. Donc voilà, finalement, on a deux images. Numériquement, on peut calculer ce qui manque à cette image-là pour donner celle-là. Si vous ajoutez cette image que vous la projetez sur celle-là, vous allez obtenir le tableau d'origine. Là, on le sait, puisqu'on a mesuré très précisément le tableau d'origine et le tableau altéré par la lumière. Et donc, si vous projetez cette lumière sur ce tableau altéré, vous obtenez celle-là. Ils se disent, ben voilà, on a une méthode. Si on a l'image du tableau d'origine, à ce moment-là, on va pouvoir calculer la projection qu'il faut faire avec un projecteur pour restituer de manière virtuelle, en réalité augmentée, ce qu'était le tableau à l'origine. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont fait dans une démarche compliquée, parce qu'ils possédaient des diapositives de cette œuvre, donc des diapositives Ektachrome de 1963. Elles ont vieilli, elles aussi, au cours du temps. Et les couleurs rouges des colorants de ces diapositives, eux aussi, ont varié au cours du temps. Mais des recherches ont été faites par la société Kodak et par d'autres laboratoires, et on connaît très bien les modèles de changement de couleur de ce type de diapositives. Donc, ils ont pu numériser ces diapositives, corriger le vieillissement du cliché, calculer l'image différence, la différence d'image entre celle d'origine et la photographie du tableau aujourd'hui, envoyer sur un projecteur la compensation qu'il fallait faire pour proposer au public de regarder le tableau tel qu'il était à l'origine sans l'avoir touché, juste par une projection de lumière qui complète donc les couleurs. Ça, c'est une démarche assez fantastique puisque ça nous permet d'aller très loin, finalement, dans les capacités de reconstitution virtuelle, momentanée. Donc, le visiteur qui ne veut pas voir cette restauration virtuelle peut ne pas la regarder. Il ne faut pas appuyer sur le bouton, pas mettre en route ce projecteur. Celui qui veut le voir peut le faire grâce à ce projecteur. Donc, vous voyez, on est vraiment en présence de choses qui évoluent actuellement et qui donnent d'autres visions, finalement, de ces œuvres et de la manière dont on peut les considérer aujourd'hui et dont on peut considérer ces changements de couleur. Les mêmes expériences, je suis sûr, seront faites sur d'autres œuvres. Donc, ça a été fait par impression de photographie sur le tableau de Renoir. Ça le sera fait un jour, certainement, ou ça l'a peut-être été fait, je ne suis pas au courant, sur les tableaux de Van Gogh dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, pour continuer en conclusion, je voudrais donc juste dire qu'il y a de nombreux mécanismes de dégradation qui peuvent se produire et qui modifient profondément les couleurs des tableaux, qu'on commence à les comprendre de mieux en mieux, mais il y a tellement de paramètres à contrôler qu'on ne sait pas encore très bien comment proposer des solutions aux conservateurs pour arrêter ces phénomènes. Chaque paramètre pouvant en influencer d'autres, et donc on arrive à la fin à des systèmes extrêmement complexes et qui nécessitent des recherches très ambitieuses aujourd'hui pour essayer de réfléchir aux meilleures conditions de conservation de ces œuvres à l'intérieur des musées. Donc l'altération des couleurs a profondément modifié l'aspect des tableaux et c'est un phénomène qui est important pour la perception que nous avons des œuvres et pour montrer qu'une œuvre est ancienne dans un but de contribution à l'expertise. Donc c'est deux aspects que je vais aborder dans les deux derniers cours de cette année et qui me semblent être très très importants puisque finalement cette altération va nous montrer que l'œuvre est ancienne. Elle n'est pas toujours si facile à simuler à l'identique. Et puis également cette altération nous montre que la perception, donc que l'expertise que l'expert peut avoir d'une œuvre peut parfois être brouillée par des changements de couleurs qui vont se produire sur une œuvre ou sur une autre. Donc on aura l'occasion de revenir là-dessus dans les deux derniers cours de cette année. Donc je vais vous présenter maintenant l'invité aujourd'hui pour le séminaire. Alors juste avant, je voudrais vous annoncer l'organisation de deux cours supplémentaires dans le cadre de ma chaire cette année, deux cours très particuliers. Alors l'un aura lieu le 10 juin et sera fait en partenariat avec la Cité de la céramique et le Musée national de Sèvres. Et le deuxième sera fait le 24 juin. Donc le 10 juin, ça sera en fin d'après-midi, le 24 juin en début d'après-midi, et ça sera en partenariat avec le Musée national du Moyen-Âge, Thermes de Cluny, donc juste à côté d'ici. Et dont le but sera de vous montrer deux cours faits à deux, donc à Sèvres avec une restauratrice, Véronique Milland, pour Cluny, fait avec un conservateur de musée, Isabelle Bardiès-Fronty, de façon à commenter des objets qui seront présents pour le cours. Donc ce ne sera pas un cours piochant des exemples à droite à gauche, ça sera un cours focalisé sur des objets, donc une céramique, copie sur porcelaine d'un tableau de Raphaël, et puis un petit trésor mérovingien en bronze, incrusté, de façon à vous raconter un peu comment on arrive à créer ce dialogue interdisciplinaire comme cas concret. Donc, je dis que c'est des cours, j'aime bien les présenter aussi comme des travaux pratiques, finalement, qui complètent cet enseignement de cette année. Donc le 10 juin et le 24 juin, et ça sera bientôt affiché dans la cour, je pense, dès aujourd'hui pour celui du 10 juin. Et vous aurez également la proposition de visiter la Cité de la céramique de Sèvres dans une visite technologique, des activités qu'ils mènent le 12 juin au matin. Et là, il faudra s'inscrire parce que le nombre de places est limité et cette inscription sera lancée à partir du 19 mai et tout sera sur le site internet du Collège de France et concernant ma chaire. Voilà, donc après cette annonce de ces deux cours supplémentaires, donc je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Robert Van Lang, donc qui nous vient d'Amsterdam, du Rijksmuseum, et qui est un collègue depuis un grand nombre d'années. Donc pour le présenter, il a eu une formation d'abord d'orfèvre, à Anvers, et ensuite il a appris le métier de restaurateur d'objets en métal à l'Institut National Supérieur des Beaux-Arts, également à Anvers. Puis après il a été dans un musée à Amsterdam, le musée Tropen, et puis il est devenu restaurateur au Rijksmuseum, dont il a dirigé d'abord la partie conservation des métaux, et maintenant il dirige le département de la conservation, de la restauration et de la recherche du Rijksmuseum et qui s'est installé dans de magnifiques locaux très récemment, le Rijksmuseum et ce département également très récemment. Donc il a obtenu un doctorat à l'Université de Delft sur le thème de l'étude technique des sculptures en bronze de la Renaissance. Il est très actif dans ce domaine et dans tous les domaines scientifiques visant à contribuer à améliorer les techniques de restauration et la connaissance que l'on peut avoir des œuvres d'art et en particulier des sculptures. Donc aujourd'hui, il va nous parler des techniques de fabrication de sculptures en bronze durant la Renaissance et le rôle de la modification de la surface de ces sculptures pour créer une apparence particulière. Donc c'est complètement en relation avec mon cours d'aujourd'hui. Donc je remercie d'être venu aujourd'hui. Comme d'habitude, pour changer d'ordinateur, on va faire une petite pause d'une ou deux minutes. Voilà. Merci beaucoup. Après.